Oui, bonjour, ici Psycho Balado avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Nous sommes samedi le 20 janvier 2024 et Joanne Côté va continuer la lecture de mon livre qui s'intitule « L'infidélité n'est pas banale ». Alors, cet épisode vous parvient de Panama City au Panama. Alors, t'es prête, ma chère Joanne?
Bien sûr.
Bon.
Alors, le chapitre ou le titre s'appelle « La puissance relative du désir sexuel ».
Alors, pour vous situer, c'est le dernier sous-chapitre du chapitre qui traitait de la libido.
Parfait. Alors, il y a des limites au sacrifice dans la vie. Il me semble dangereux de sacrifier sa vie sexuelle pour son conjoint. Les personnes dépendantes peuvent en arriver là, mais c'est à leur dépens. La sexualité est assurément l'un des plaisirs les plus intenses d'une vie. Et non seulement elle sert à solidifier les liens amoureux, elle est en plus bonne pour la santé. On sait d'une part que les gens mariés vivent plus longtemps, sont en meilleure santé et qu'ils souffrent moins de dépression. Leur relation sexuelle y contribue sans doute. En effet, la fréquence orgasmique a un impact sur la longévité. Les femmes ont moins de risques d'avoir le cancer du sein si elles ont de fréquentes activités sexuelles. Il en est ainsi pour le cancer de la prostate. Les personnes actives sexuellement ont moins de crises cardiaques. Aussi, des relations sexuelles fréquentes combattent le rhume et d'autres infections par l'augmentation des cellules guerrières du système immunitaire qu'elles suscitent. Et les endorphines sécrétées durant l'orgasme peuvent soulager les douleurs chroniques du dos, les douleurs de l'arthrite et les migraines. Durant l'excitation sexuelle, les hormones peuvent calmer l'anxiété, diminuer la peur et réduire les inhibitions. Les personnes actives sexuellement sont moins susceptibles de sombrer dans la dépression et de se suicider. Les enjeux du désir sexuel sont donc considérables sur plusieurs plans et l'on comprend que l'on ait envie de s'intéresser à d'autres personnes si c'est impossible de se satisfaire avec son conjoint. D'un autre côté, il faut relativiser son impatience. Pour toutes sortes de raisons, il est normal dans une vie de couple de vivre des périodes temporaires de fréquence d'activité sexuelle abaissée. Le chercheur Edwards avait même constaté en 1976 que sur les 365 couples de sa recherche, dont les trois quarts avaient entre 20 et 39 ans, un tiers avait cessé temporairement d'avoir des relations sexuelles. La médiane du temps d'arrêt était de 8 semaines. Dickert, en 1981, a même affirmé « Mon expérience clinique me suggère que le manque de désir sexuel dans le mariage est presque universel à un moment donné de l'évolution normale de presque tous les couples mariés. » Une recherche américaine d'envergure, Lohmann et dans Heyman en 2002, a révélé que 33 % des femmes américaines et 16 % des hommes avaient manqué de désir sexuel au cours de la dernière année, et cela durant de nombreux mois. Mais il faut évaluer correctement la situation. C'est une chose de vivre des baisses temporaires du désir. C'en est une autre que d'avoir toujours souffert d'une différence mortifiante de désir avec son conjoint depuis le début de la relation. Dans certains cas, le faible désir du conjoint témoigne d'un manque de passion pour l'autre. Dans d'autres cas, une éducation puritaine ou des traumatismes sexuels ont eu un effet dévastateur sur la spontanéité sexuelle. Mais attention, le manque de désir peut être généralisé comme il peut être situationnel et spécifique. Un client percevait son épouse comme asexuée et puritaine, alors qu'en réalité, elle avait des amants et me disait adorer le sexe avec eux. Les perceptions de la force du désir sexuel du conjoint peuvent être faussées. C'est particulièrement le cas quand la différence du désir est grande. Schwartz et Masters en 1988 ont appelé effet spirale ces différences de perception et les comportements qu'elles entraînent. Celui qui a le plus de libido peut induire chez l'autre une tendance à abaisser encore plus son niveau de désir en le repoussant. Une conjointe ainsi harcelée se forcera un temps pour faire l'amour, même quand son désir sera totalement absent. À la longue, son désir s'affaiblira de plus en plus. Le conjoint en conclura qu'elle est tout à fait désintéressée de la chose sexuelle ou même qu'elle est une femme frigide. De son côté, elle s'imaginera que son conjoint est ni plus ni moins qu'un obsédé sexuel. Chacun des deux rigidifiera sa perception de l'autre et amplifiera la différence du véritable niveau du désir sexuel. Lui croira volontiers qu'elle ne fera l'amour presque jamais s'il cessait de la harceler, et elle s'imaginera qu'il ne serait pas satisfait sexuellement à moins de faire l'amour chaque jour. Chacun s'installera défensivement dans une position d'affrontement regrettable. La psychiatre new-yorkaise Hélène Kaplan, en 1999, à l'origine du diagnostic psychiatrique de l'inhibition du désir sexuel, a proposé une échelle du niveau de désir sexuel ressenti par une personne. Elle a gradué le désir en 6 niveaux d'intensité, passant du désir sexuel hyperactif au sommet de l'échelle à l'aversion sexuelle au plus bas de l'échelle. Dans le désir hyperactif, elle classifie les gens qui ont des désirs et des fantasmes intenses et spontanés avec des comportements compulsifs et des activités sexuelles fréquentes. Ces personnes manquent de contrôle sur leurs pulsions sexuelles au point d'en éprouver de la détresse. Viennent ensuite les personnes qui ont un désir sexuel élevé, mais normal, puis celles qui ont un désir faible, mais dans la normalité des choses. Dans ce dernier cas, leurs désirs et leurs fantasmes ne sont pas spontanés et leurs activités sexuelles sont plutôt réactives. Mais le fonctionnement sexuel est normal et la fréquence sexuelle peut se situer autour de la moyenne. De leur côté, les gens qui souffrent de désirs sexuels faibles et de façon bénigne n'ont pas de désir ni de fantasme spontané et ils le font en plus de l'évitement sexuel. Leur fonctionnement sexuel en est affecté. Leur fréquence sexuelle est basse et ils en éprouvent de la détresse. Dans le cas du manque sévère de désir sexuel, les personnes en viennent en plus à vivre très peu de relations sexuelles, sinon aucune. Finalement, dans l'aversion sexuelle, les personnes ont une réaction d'évitement phobique face à la sexualité et leur fréquence sexuelle est évidemment très basse, sinon inexistante. On l'a vu au cours de ce chapitre, une multitude de facteurs biopsychosociaux qui sont impliqués dans la force du désir. Ce n'est pas juste une question d'attraction amoureuse ou purement sexuelle entre deux personnes. D'une façon générale, la force du désir est en relation directe avec la santé émotionnelle du couple et la santé mentale des individus. Cependant, c'est comme passé. Comme on dit familièrement au Québec, et les hypersexuels peuvent être très dysfonctionnels, comme on le verra au prochain chapitre. Un conjoint normal peut se faire reprocher de souffrir d'un grand manque de désir sexuel, alors que c'est l'autre qui souffre plutôt d'un désir sexuel hyperactif. Le prochain chapitre traite de la sexualité excessive qui est souvent associée à de l'infidélité chronique.
OK, merci Joanne. Alors donc là maintenant on aborde le chapitre 6 qui s'intitule « La sexualité excessive déconnectée de l'amour ».
Alors, abordons maintenant cette forme d'infidélité qui n'a rien à voir avec l'insatisfaction conjugale d'un individu. Il existe en effet des infidèles qui ont toujours été infidèles de façon fébrile et qui le seront toujours, peu importe la qualité de leur relation conjugale. Peut-être que 10% des infidélités masculines tombent dans cette catégorie d'une sexualité hyperactive qui dissocie le plaisir sexuel de l'engagement amoureux. La sexualité et l'amour sont sans contredit deux entités différentes et ce, de façon tout à fait normale et biologique. Même si le bonheur amoureux implique presque automatiquement et universellement une intégration des deux. Une forte libido est-elle automatiquement le fait de personnes extraverties, énergiques, puissantes et resplendissantes de santé? Il y a probablement du vrai dans cette conception, mais comme nous allons le voir dans ce chapitre, une vigoureuse libido mal canalisée reflète souvent des problèmes affectifs. Ce sera l'angle adopté dans ce chapitre-ci. Un nouveau cul chaque jour.
C'est un sous-titre.
Voilà, merci, chère Yves. Dans les années 1970, alors que je participais à un congrès en psychologie aux États-Unis, un collègue américain m'avait étonné en me racontant l'histoire suivante. À l'époque où John Kennedy était président des États-Unis, la sœur de mon collègue américain étudiait dans une université de Washington, D.C. Elle y partageait un appartement avec une copine. Devinez quelle visite régulière avaient ces deux jeunes filles, le président des États-Unis. En effet, John Kennedy, alors qu'il était président des États-Unis, avait séduit une jeune fille rencontrée dans une pharmacie du quartier à Washington et il allait régulièrement faire l'amour avec elle dans son appartement d'étudiant. Cette histoire apporte de la crédibilité à ce que j'ai lu par la suite sur la vie sexuelle effrénée de John Kennedy. Selon Beau Mystère et en 2001, le président avait l'habitude de baigner nu chaque jour en compagnie de femmes faisant partie du personnel de la Maison-Blanche. Bien plus, il avait recruté plusieurs hommes dont la fonction première était de lui amener de multiples femmes à des fins sexuelles. Kennedy disait lui-même, « Vous savez, si je n'ai pas un nouveau cul chaque jour, je souffre de migraines. » Et il faisait intervenir des agents de service secrets dans ses ébats sexuels avec de jeunes femmes dans le bain à remous de la Maison-Blanche. Paraît-il d'ailleurs que plusieurs de ses agents secrets ont été passablement affectés par la vie sexuelle débridée de Kennedy. Ils étaient tous tenus au plus grand secret, sans compter que le président était protégé par son frère Robert, qui détenait le plus haut poste de justice des États-Unis. Plus récemment, le président Clinton n'a pas eu la chance d'être aussi bien protégé dans sa vie extra-conjugale. Il apparaît pourtant bien sage en comparaison de Kennedy, quoiqu'il aurait confié à Monica Lewinsky avoir entretenu des centaines de liaisons dans sa vie avant l'âge de 40 ans. C'est inscrit dans le rapport Starr. Ce genre de comportement sexuel fascine beaucoup d'hommes qui rêvent à cette vie sexuelle comblée et qui envient ces chanceux. Cela rejoint la nature polygame masculine. On valorise volontiers la vie sexuelle libertine d'hommes célèbres comme si on leur attribuerait le courage d'avoir vécu selon leurs propres valeurs. Le héros du film « Les invasions barbares » de Denis Arcand incarne ce type d'homme qui semble admiré pour sa liberté sexuelle. Mais en réalité, ni Kennedy ni Clinton ne sont des exceptions chez les hommes puissants. En effet, selon Betzig en 1986 dans Beau Mystère et Tiss en 2001, les puissants de la Terre conduisent leur vie sexuelle selon un modèle passablement consistant. Ils se marient tout en se permettant un accès régulier à d'autres femmes avec qui ils ont toutes sortes de relations allant de simples ébats d'une nuit à des liaisons de plusieurs années. L'histoire des rois d'autrefois en Europe en témoigne. Un autre exemple, les athlètes professionnels contemporains. Il est de notoriété publique que ceux-ci profitent de leur célébrité et de leur richesse pour entretenir une vie sexuelle active en dehors de leur vie conjugale, selon Beau Mystère et Tiss en 2001. Un autre chapitre, l'hypersexualité comme auto-médication contre le mal de vivre. Alors, que penser de cette puissance extra-conjugale en termes psychologiques? Beau Mystère et Tiss en 2001 cite quelques recherches établissant un lien positif entre l'estime de soi et le nombre de partenaires sexuels, surtout chez les hommes. Plus la personne a eu de partenaires sexuels, plus son estime de soi est élevée. Cependant, cette corrélation statistique est peut-être trompeuse. Des facteurs comme le statut matrimonial, une certaine étendue dans le nombre de partenaires et l'intensité des activités sexuelles changent probablement la donne globale. Je pense cela parce que beaucoup de données nous amènent dans une perspective négative d'une sexualité dite excessive. Il ne faut pas le nier. La vie sexuelle peut être excessive et dérangeante pour l'individu concerné et pour son entourage. Certains individus ont un désir sexuel excessif et compulsif. Certains individus ont un désir sexuel excessif et compulsif. Certains s'adonnent à des perversions sexuelles, la paraphilie, selon les termes de la sexologue contemporaine. D'autres sont des séducteurs assoiffés, exclusivement d'amour passionnel, de courte durée. Il existe des personnes pour qui le sexe doit être intense, fréquent, avec de multiples partenaires, et qui souffrent de cette situation ou font souffrir ceux qui les aiment. Mais les concepts de dépendance de la sexualité, sexual addiction, et de compulsion sexuelle ont été mis de l'avant seulement depuis une vingtaine d'années. En 1983, Carnes proposa l'idée qu'on pouvait être accroché à la sexualité comme à l'alcool. Dès les premières publications, ce terme a cependant suscité une controverse qui dure encore. Que mal, argumente-t-on, y a-t-il à exercer sa pleine vitalité sexuelle? En plus, comment distinguer une forte libido saine d'une libido dite pathologique? Des réponses à ces questions s'imposent quand on étudie le comportement des hypersexuels. Selon certains auteurs, l'hypersexualité est associée à beaucoup de psychopathologies, comme nous allons le voir. Kinsey, Pomeroy et Martin ont élaboré en 1948 un concept commode appelé « total outlet » qui est la somme hebdomadaire de tous les orgasmes d'un individu, peu importe la source de ceux-ci, c'est-à-dire la masturbation, la pénétration, les caresses hétérosexuelles, l'homosexualité. Ces auteurs ont découvert, dans leurs recherches portant sur 5300 hommes, que seulement 7,6% des hommes avaient une fréquence orgasmique totale de 7 fois par semaine ou plus. Or, en 2000, Kafka, en étudiant les statistiques de l'équipe de Kinsey, a réalisé que c'était la masturbation qui était la source première des orgasmes de ces hommes, qui avaient 7 orgasmes ou plus par semaine, peu importe leur statut marital. Des recherches plus récentes, toujours selon Kafka, ont abouti au pourcentage de seulement 3 à 5% des hommes qui avouent se masturber chaque jour, en plus de leur relation sexuelle. Mais voici où Kafka veut en venir. Si on procède au même genre de statistiques sur une population d'hommes s'adonnant à des activités marginales comme la paraphilie, la pédophilie, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le fétichisme, le sadomasochisme ou encore la prostitution, la pornographie, l'utilisation sexuelle d'Internet, etc., on est frappé par le contraste en termes de fréquence orgasmique. Par exemple, dans une recherche faite sur des hommes ayant des comportements sexuels marginaux, 72% de ceux-ci avaient eu des périodes d'au moins 6 mois au cours desquelles ils avaient eu un minimum de 7 orgasmes par semaine. Pour 57% de ces déviants sexuels, ces périodes d'intense désir avaient duré 5 ans et plus. Et quelle était la principale source orgasmique de ces hommes? La masturbation. Peu importe que l'homme vive en couple ou non. Ce qui démontre, selon Kafka, que l'hypersexualité est intimement liée à une sexualité non relationnelle. D'autre part, selon le concept de dépendance de la sexualité, l'assouvissement du désir sexuel chez les hypersexuels servirait avant tout à les soulager de leurs diverses misères morales telles que l'anxiété, la dépression et la honte. L'intensité émotionnelle éprouvée dans leur activité sexuelle leur servirait en quelque sorte d'automédication contre les souffrances morales, comme c'est le cas pour d'autres dépendances, l'alcool, la drogue, le jeu compulsif, etc. Les hypersexuels en ont véritablement besoin, en effet, car on retrouve chez eux des pourcentages élevés de psychopathologie, dépression majeure, dysthymie, état dépressif à long terme, anxiété, spécialement la phobie sociale, déficit de l'attention et hyperactivité, troubles du contrôle des impulsions, troubles obsessionnels compulsifs, dépendance à l'alcool et aux drogues. Aussi, certains troubles de la personnalité antisociale et la personnalité borderline, dis-je, sont souvent associés à la dépendance à la sexualité, selon Sadock et Sadock en 2003. De son côté, Schneider, en 1988, Dan Brown, 1991, décrit la dépendance de la sexualité de manière suivante. Il s'agit de comportements compulsifs qui s'imposent de façon croissante. Ces compulsions persistent en dépit des inconvénients personnels, familiaux et professionnels. Les risques et les excitations associées à ces actes sexuels sont des facteurs importants dans la motivation de l'individu, parce que ces émotions fortes servent à le soulager temporairement de ses souffrances émotionnelles. D'habitude, les activités sexuelles extra-conjugales de ces individus sont fort nombreuses. Par exemple, une nouvelle aventure sexuelle chaque semaine ou au cours de chaque voyage d'affaires. Le nombre de leurs partenaires sexuels peut facilement s'élever à 50 ou à 100. Et ils sont fiers de leurs statistiques personnelles. Aucun attachement émotif pour leurs partenaires sexuels. Bien sûr, tout est caché à la famille, ce qui contribue à les isoler de cette dernière. Typiquement, le passage à l'acte suit un modèle cyclique. L'individu ressent d'abord l'envie d'agir sexuellement de façon obsédante. Il finit par céder à cette pression et passe à l'acte. Mais il éprouve ensuite la peur d'être découvert et la honte de ce qu'il a fait. Après s'être accroché les pieds, une fois de plus, il se promet de ne plus recommencer. Jusque-là, ce qu'il se trouve submergé de nouveau par, jusqu'à ce qu'il soit submergé de nouveau par ce désir plus fort que lui. Un client accroché à la pornographie sur Internet était tellement mal avec cette habitude qu'il lui prenait plusieurs heures par jour depuis plusieurs années, qu'il souhaitait désespérément venir à bout de cette dépendance. « Je préférerais me guérir de cette habitude, me confia-t-il sérieusement, que de gagner un million à la loterie. » La plupart du temps, ces individus vivent d'autres formes de dépendance comme l'alcool et la drogue. En plus, le nombre de dépendances est élevé. Plus chaque dépendance exerce de l'emprise.
OK, mais merci Joanne.
Ça fait plaisir.
Oui, bon. Alors, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Pour avoir un petit peu plus d'informations sur qui nous sommes, vous pouvez consulter notre site internet www.dalpecote.com et donc on se retrouve dans environ 2 semaines. Thank you.